Francisco ressentit un choc lorsqu'il réalisa que la jeune fille cadavérique qui se tenait devant le porche du camp des femmes était Tanusha. Il doutait de ce qu'il voyait. Tanusha, ce tas d'os, cet être au crâne rasé et au teint jaunâtre, cette loque immonde. Tanusha. Lorsque la prisonnière prononça son nom, ses doutes s'envolèrent. Passé le trouble initial, Francisco sortit de sa torpeur et la gifla si fort qu'il la projeta dans la boue.
« Tais-toi, salope! Comment oses-tu m'adresser la parole? Tu ne parles que si on t'y autorise, compris ?»
Il se tourna vers la Blokova.
« Y a-t-il un endroit où je puisse l'interroger en tête-à-tête ? » ?»«
Je ne vois que les chambres des Blokkeltesten, dans les blocs, SS-man. »
D'un geste rude, Francisco saisit Tanusha et la força à se lever. En la poussant fermement par le bras, il fit signe à la Blokova.
« Montrez-moi !»
Le Portugais suivit la femme SS jusqu'au baraquement le plus proche. Il entra avec Tanusha dans la chambre de la Blokkelteste et donna des instructions strictes pour ne pas être dérangé pendant qu'il interrogeait la prisonnière. Il ferma la porte et se retrouva seul avec elle. La jeune fille le regardait en tremblant. Elle semblait incrédule, désorientée. Ému, Francisco la prit dans ses bras et la serra contre lui.
« Tanusha !»
Mouillée et transie, elle tremblait sans pouvoir s'arrêter. Pendant quelques secondes, elle ne réagit pas, comme si elle n'était qu'un objet inerte. Elle semblait apathique, traumatisée. Puis, sortant de sa torpeur, elle émit un doux gémissement et, avec ses bras maigrelets, elle lui rendit son étreinte.
« C'est toi !»
chuchota-t-elle d'une voix faible.
« C'est vraiment toi ?»«
Chut !» souffla-t-il en la consolant. « Voilà, tout va bien. Je suis là, tout va bien. » Elle pleura convulsivement pendant quelques minutes, le front posé sur son épaule, tandis qu'il la caressait en lui murmurant des mots de réconfort. Elle sentait les excréments et l'urine, mais il ne la lâcha pas. Au bout d'un moment, elle se sentit plus calme et s'écarta légèrement.
« Que fais-tu ici ?»«
C'est une longue histoire, » répondit Francisco. « Mais, en résumé, je me suis engagé dans la SS pour te sauver. » La jeune fille cligna des yeux, un espoir se dessinant dans son regard.
« Tu vas me sortir d'ici ?»
Il accusa le coup. « Ce n'est pas si simple, » répondit-il. « Je vais essayer, mais ce sera difficile. » La déception de Tanusha le blessa. Il s'était juré de la protéger. Il en avait fait le serment. Mais il en avait été incapable et continuait de l'être. « Le plus important pour le moment, c'est que je t'ai retrouvé, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Pour le reste, on verra. »
« Pourquoi m'as-tu frappé ?»«
Je ne peux pas fraterniser avec une prisonnière. Si je suis pris, je serai puni et peut-être même exécuté. Et toi aussi. » Elle secoua la tête.
« Ces Allemands sont horribles, »
murmura-t-elle.
« Horribles ? Ça ressemble à un camp en Russie. Si tu voyais ce qui se passe ici. »
Elle frissonna.
« Margarita est morte dans le baraquement, et ses chiens ont emmené Olga. »
« Je lui ai parlé. » Tanusha fut surprise.
« Olga ? Elle va bien ?»«
Oui, elle a même grossi. »«
Ah, quelle bonne nouvelle !»
soupira-t-elle, soulagée.
« J'étais si inquiète. »
Le Portugais mit la main dans la poche de son pardessus. « Toi aussi, il faut que tu grossisses. Tu dois être affamée. » Un éclair illumina le visage émacié de Tanusha.
« Tu m'as apporté quelque chose ?»
Il sortit de sa poche un paquet emballé dans du papier journal qu'il avait pris au Stammlager. La jeune fille le saisit comme s'il allait disparaître et, avec des gestes frénétiques, elle déchira le papier et mordit le pain fourré d'une saucisse. Elle mâcha avec avidité. On aurait dit un animal sauvage, encore plus vorace que le jour où elle lui était apparue, famélique, au bord de la rivière Yora.
« Doucement, » conseilla-t-il. « Mange lentement, sinon ça va te faire mal. »
Tanusha dévora le pain et la saucisse en quelques secondes. Puis elle prit la pomme qui lui tendait et croqua dedans avec la même boulimie.
«
gémit-elle, la bouche pleine.
« C'est tellement bon. »
Elle mâchait avec fureur.
« Short, je n'ai rien mangé d'aussi bon depuis des mois. Des mois !»
Après avoir avalé le dernier morceau, elle mit dans la bouche le trognon de la pomme avec les pépins.
Quel plaisir.
En l'examinant attentivement, le Portugais fut choqué de voir dans quel état elle se trouvait. La tête rasée et la peau grisâtre, couverte d'édèmes, sa fiancée commençait à ressembler à l'un des morts-vivants du camp. Mais elle dégageait une odeur nauséabonde. Es-tu malade ? Elle léchait le jus de la pomme qui lui restait sur les doigts.
Tout le monde est malade ici,
dit-elle.
Chaque matin, on retire 10 à 20 cadavres de mon bloc pendant l'appel.
Elle regarda la gourde qu'il portait à la ceinture.
Tu as de l'eau ?
Francisco détacha la gourde et lui donna à boire. Elle porta le récipient à sa bouche et en avala le contenu à grosses gorgées.
Waouh, quelle soif !
Lorsqu'elle eut vidé la gourde, elle lécha le goulot et, déçue qu'il n'y en ait plus, la lui rendit.
Je n'ai rien bu d'aussi bon depuis... Je ne sais pas. C'est la meilleure eau du monde.
Il n'y a pas d'eau ici ? Elle le regarda avec une expression de lassitude.
Tu plaisantes ?
Dit-elle.
Il y a un puits pour tout le camp.
Elle leva l'index pour souligner le chiffre.
Un puits et un seul. Et nous sommes 30 000.
Elle rota, sous l'effet de l'eau qu'elle venait d'avaler.
En plus, l'eau est contaminée. Avant d'y descendre les seaux, on doit d'abord en sortir les cadavres.
Des cadavres ? Dans le puits ?
Oui, des cadavres. Il y en a qui ont tellement soif qu'elles ne peuvent pas résister et se jettent dedans. Les mortes vivantes en particulier. On se donne un mal de chien pour sortir leur corps du fond du puits. Ensuite, il faut se battre pour remplir un simple gobelet. On ressemble à des animaux. On se bouscule, on se bat, on s'écharpe. On ne s'arrache pas les cheveux tout simplement parce qu'on n'en a plus.
En évoquant les cheveux, elle passa la main sur sa tête nue, soudainement consciente de son image.
Je suis laide ?
Tu es belle.
Sérieusement, je suis vraiment horrible ?
Il sourit, essayant de la rassurer.
Toi et moi, nous avons connu des jours meilleurs, c'est vrai. Mais crois-moi, nous redeviendrons comme avant.
La jeune fille russe allait dire quelque chose quand elle se plia en deux, se tenant le ventre. Avec des gestes désordonnés, elle sortit à la hâte une écuelle en cuivre immonde de l'intérieur de sa robe et, s'accroupissant, la plaça entre ses jambes. Un liquide jaunâtre éclaboussa le sol, giclant sur ses cuisses et dégageant une odeur acide. Tanoucha le regarda, honteuse.
« Excuse-moi. »
Ce qu'il venait de voir laissa son fiancé sans voix. « Tu te promènes avec un pot de chambre ?»«
C'est mon écuelle. »«
Mais c'est dégoûtant !»
s'exclama-t-il en réprimant un haut-le-cœur.
« Tu fais tes besoins dans l'écuelle qui te sert pour manger ?»«
Nous faisons tout ça. »
se défendit Tanoucha d'une voix faible et embarrassée.
Que veux-tu que je te dise ? Nous sommes 30 000 dans le camp des femmes et il n'y a qu'une latrine que nous sommes autorisés à utiliser 2 fois par jour. Quand on a la diarrhée, ce qui arrive tout le temps, comment faire autrement ? Imagine 30 000 prisonnières avec la diarrhée essayant d'entrer toutes en même temps, le matin, dans l'unique latrine existante. Sans compter que les robinets n'ont presque pas d'eau et qu'il y a des excréments partout. On a de la merde jusqu'aux genoux. Si, par chance, j'arrive à m'asseoir sur le banc des toilettes, les femmes de chaque côté sont si proches de moi qu'elles m'éclaboussent. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Si on ne peut pas aller aux latrines et qu'on ne peut pas chier ailleurs, sous peine de nous faire tabasser à mort, que veux-tu qu'on fasse ? On est obligé d'utiliser les écuelles dans lesquelles on mange. Il n'y a pas d'autre solution.
Francisco fronçait les sourcils, l'air dégoûté. L'état de déchéance des détenus dans le camp des femmes dépassait tout ce qu'on lui avait dit au Stammlager.
Et vous mangez dans ces écuelles ?
On n'a pas le choix. J'essaie de la laver de mon mieux, avec de la neige ou le peu d'eau qu'on peut trouver, bien sûr, mais... Il faut bien que je l'utilise, sinon on ne me donne pas à manger. Je ne sais pas comment je vais faire quand l'été arrivera et qu'il n'y aura plus de neige.
La jeune fille posa l'écuelle pleine de sel liquide dans un coin, essayant de la cacher à la vue de son fiancé. Mais elle n'avait rien pour s'essuyer. Elle avait été réduite à l'état sauvage. Depuis combien de temps as-tu la dysenterie ?
Depuis mon arrivée. Moi et toutes les autres. C'est terrible, tu n'as pas idée.
Francisco sortit un petit paquet d'une autre poche. « Je t'ai apporté des médicaments de la pharmacie des SS, » dit-il, « y compris des cachets contre la dysenterie. »«
Comment as-tu su que j'avais la diarrhée ?»
Le SS commençait à déballer le paquet. « Tu l'as dit toi-même, tout le monde a la dysenterie, » rétorqua-t-il. « C'est un fléau dans les camps de concentration. Fais attention à ce que tu bois, sinon ça ne s'arrêtera pas. Tu ne dois pas recommencer à boire l'eau de ce puits, ni à faire tes besoins dans ton écuelle. »«
Ah oui ? Et que suggères-tu ? Que je meure de soif ou que je sois battu à mort parce que je fais par terre ?»
C'était une bonne question.
Je vais te trouver une autre écuelle.
Ayant déballé le colis, il lui tendit le papier d'emballage. En attendant, utilise ça. Tanoucha prit le papier et s'essuya. Tout en se frottant, elle regardait la seringue et les différents emballages sortis du colis.